pour cadrer un peu plus largement le sujet que j'aimerais développer aujourd'hui, ces thématiques du bien-être, dans une certaine mesure de la survie également, notamment si on s'intéresse aux pays du Sud et entre autres aux travaux de Christine Aubry. Donc thématiques qui font directement ou très directement écho aux notions ou à la notion de durabilité, durabilité de nos villes, durabilité de nos campagnes, durabilité également et peut-être surtout de ce fameux tiers-espace ou de ce que Donadieu a appelé dès 1998 les campagnes urbaines. Alors, campagne qui aujourd'hui constitue un enjeu majeur de l'aménagement des territoires organisés par nos villes, campagne par lesquelles passe également nécessairement aujourd'hui la promotion de la ville renouvelée ou de cette nouvelle urbanité. Ceci, je dirais, en raison d'un contexte général, donc je vais aller vite hein, sur ces considérations, mais d'un contexte général marqué par tout d'abord la poursuite de l'étalement urbain et l'effacement de cette traditionnelle dissociation entre le rural et l'urbain. Deuxième élément, l'accroissement des demandes sociales de nature. Alors, nature entre guillemets, bien évidemment, donc citadins qui aiment venir se ressourcer dans cette campagne proche. Troisième élément, accroissement des attentes également en faveur d'une agriculture de proximité, susceptible, on le reprendra, mais susceptible de tisser du lien social, susceptible également, et c'est une nouvelle dimension, de contribuer à la sécurisation alimentaire. Contexte marqué aussi, sur un autre plan, mais c'est très important, par la reconnaissance officielle d'une multifonctionnalité agricole, et cinquièmement, par la définition d'un nouveau cadre institutionnel, je fais là référence à la loi SRU, qui oblige à la mise en œuvre de territoires de projet. Alors, par voie de conséquence, bien évidemment, l'agriculture réintègre l'espace de la ville et redevient partenaire de la cité. Plus que cela même, l'agriculteur devient acteur non substituable, parce que son offre est spécifique, non substituable de cette fameuse ville renouvelée. Alors, ville renouvelée, hein, qui est une expression, un concept, qui est le leitmotiv des discours, mais aussi des documents de planification lillois et notamment du schéma directeur adopté en 2002 et du SCOT en cours d'élaboration. Alors, nous pouvons citer Monique Poulot, hein, qui nous dit que le rural périurbain signe ainsi le retour de l'agriculture dans la ville. Alors, il est intéressant de noter, à propos donc de la région Nord-Pas-de-Calais, que la politique hein, lilloise, conduite maintenant depuis une dizaine d'années, politique lilloise d'insertion de l'agriculture dans le projet urbain, s'inscrit dans un contexte régional spécifique, puisque l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais s'est très largement déterminée dans une relation de proximité, voire de symbiose avec la ville. Et cette relation de proximité s'est maintenue plus longtemps qu'ailleurs. Il s'agit néanmoins, pour le présent, de parler de réactualisation, pardon, et de réinterprétation de ces liens ville-agriculture. Alors, réactualisation et réinterprétation qui implique cette fameuse mise en convergence des représentations du territoire entre les différents acteurs de ce territoire, mise en convergence notamment des représentations des agriculteurs d'une part, des citadins d'autre part et en premier lieu des aménageurs. Autrement dit, la volonté de mise à contribution aujourd'hui de l'agriculture dans la production ou la coproduction des territoires est très largement conditionnée par les trajectoires agricoles les plus contemporaines, mais aussi par la perception qu'ont les décideurs urbains ou les aménageurs de ces trajectoires agricoles. L'exemple lilloise nous permet de souligner tout d'abord quels peuvent être les enjeux et les objectifs d'un aménagement conjoint ville-agriculture. Un exemple également qui nous montre comment s'est opéré le rapprochement des sphères agricoles d'une part et des sphères citadines d'autre part. Autrement dit, l'étude du cas lillois peut nous permettre de comprendre, de décrire tout d'abord, puis de comprendre comment et à quelles conditions peut effectivement être mis en œuvre un partenariat ville-agriculture. L'étude pose enfin la question de l'efficience, je dirais, des expériences menées à l'échelle donc de l'arrondissement de Lille en matière de gouvernance ou en matière de gestion participative. Autrement dit, quels sont les résultats réels des programmes mis en œuvre donc par l'espace naturel Lille Métropole, syndicat mixte en charge des espaces naturels. Donc, programme mis en œuvre par ce syndicat mixte en faveur d'une diversification de l'agriculture, des trajectoires agricoles et d'une contractualisation ville-agriculture. Mon intervention se fera en trois temps. Première partie relative à la question des enjeux en matière de durabilité. Enjeu, bien sûr, d'un aménagement conjoint ville-agriculture, d'un point de vue agricole tout d'abord, du point de vue de la ville, du point de vue urbain ensuite. La deuxième partie envisagera le processus de mise en convergence des intérêts et des représentations, processus par lequel est rendu aujourd'hui possible la politique partenariale. Ainsi, je vous présenterai dans un troisième temps et dernier temps donc les expériences conduites en matière de coproduction des campagnes lilloises mais également, je l'ai suggéré précédemment, les difficultés et les limites du montage ville-agriculture. Alors, premier temps donc, les enjeux, je dirais, du renouvellement des liens ville-agriculture. Alors, les enjeux agricoles, tout d'abord. Du point de vue agricole, les enjeux sont ceux d'une reterritorialisation de l'activité. Processus, on va dire, dont les dynamiques peuvent pleinement s'insérer dans le triptyque de la durabilité. Durabilité économique, tout d'abord. Cette durabilité économique passe pour des agriculteurs en recherche d'une nouvelle rentabilité par une plus large inscription des exploitations dans leur territoire marchand. Et donc, également, par une diversification des systèmes de revenus et des fonctions. Autrement dit, cette durabilité économique peut passer par le développement des circuits courts, la mise en œuvre de systèmes type AMAP ou par le développement des activités d'accueil. Durabilité écologique, ensuite. Reprenons l'exemple des circuits courts. Ceux-ci peuvent contribuer doublement à la dimension écologique de la durabilité. Un, par la limitation du recours à l'apportation et au transport de marchandises, mais également par les efforts consentis par les agriculteurs, agriculteurs dans le cadre d'une vente directe, très à l'écoute des désirs ou des demandes de leur clientèle. Clientèle qui est de plus en plus attachée à la qualité sanitaire des aliments, clientèle attachée également aux pratiques, enfin au développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Alors, il convient par ailleurs de ne pas négliger la dimension sociale d'une agriculture susceptible de maintenir, parfois de créer des emplois, mais d'une agriculture également productrice de liens sociaux. Du point de vue de la ville, le renouvellement des liens ville-agriculture recouvre, je dirais, quatre catégories d'enjeux. Il faut tout d'abord protéger les ressources, notamment les ressources en eau, sujet particulièrement délicat à propos de l'agglomération lilloise, puisque l'essentiel de ces ressources dépend de champs captants situés au sud de l'agglomération, champs néanmoins particulièrement vulnérables. Deuxième élément, deuxième enjeu, celui de la structuration du territoire de la ville. En gros, la gestion des espaces agricoles, libres, entre guillemets, est présentée comme moyen, c'est une des fonctions, je dirais, les plus traditionnelles, comme moyen pour réguler l'étalement urbain. Aujourd'hui encore, la vocation de ceinture verte, doit répondre à cette ambition. Troisième élément ou troisième objectif, celui bien sûr de produire un cadre de vie et donner à la ville un poumon vert. Alors, le schéma directeur, puisque c'est de lui dont il va s'agir également, de 2002 établit le constat suivant. Les espaces verts disponibles par habitant à Lille, à l'échelle donc de l'arrondissement de Lille, ne sont que de 15 mètres carrés contre 70 mètres carrés, par exemple, à Cologne ou 50 mètres carrés à Amsterdam. Alors, ce schéma directeur propose donc la mise en œuvre d'un réseau maillé d'espaces verts, d'une grande couronne finalement réunissant de vastes espaces à dominante écologique ou récréative. Alors, le projet de 2002 s'est fixé un objectif de 10 000 hectares d'espaces protégés ou aménagés d'ici à 2015, dont 3 000 hectares à vocation agricole. Avec dans l'idée, bien évidemment, que cette agriculture est le moyen le plus efficace et le moins onéreux de maintenir et d'offrir des espaces verts aux citadins. Alors, à cet espace agricole, et c'est là, je dirais, l'origine des parcs périurbains dont je vous parlerai par la suite, resterait donc simplement, il suffirait donc au-delà simplement de développer, pardon, au sein de ces espaces agricoles, un certain nombre de cheminements sécurisés ou balisés, éventuellement de valoriser un certain nombre d'éléments du patrimoine rural ou permettant l'identification de ces espaces. Alors, autre enjeu en matière d'intégration de la nature dans le projet de territoire, c'est celui de contribuer à la réussite économique du projet urbain de l'agglomération ou de la communauté urbaine de Lille. Bon, rappelle rapidement le contexte, fin des années 80, un tissu économique lillois sinistré par le recul des industries textile bien évidemment, mais également mécanique. À cette époque-là, la totalité, on va dire, des responsables politiques et économiques locaux s'accordent sur une même ambition, faire de Lille une métropole, enfin, faire entrer Lille dans l'ère, on va dire, du tertiaire et faire de Lille une grande métropole internationale, du moins européenne. Mais cette métropole de Lille devra être une véritable ville du Nord. Elle devra donc être, à l'instar des autres villes du Nord, être une ville verte et écologique. Autrement dit, la réalisation de la trame verte présentée précédemment doit directement contribuer au renversement d'image de la métropole lilloise. Alors ainsi, et c'est le sens de ce document, l'Agence pour la promotion de la métropole fait du cadre environnemental un argument, on va dire, de vente objectif. Bon. Argument mis en avant notamment à propos du site tertiaire de la Haute-Borne. Alors, ce site est en périphérie sud-est de l'agglomération, au contact direct du tissu urbain de Villeneuve-d'Ascq et jouxte directement l'université de Lille 1, à savoir la cité scientifique. Cette zone d'activité a été construite sur des terres agricoles dont le statut était précaire depuis les expropriations destinées à la création de la ville nouvelle. Cette nouvelle zone d'activité, ce fameux site de la Haute-Borne, a maintenu, au sein de ce site, hein, sont maintenues de longues lanières, effectivement, à vocation agricole. L'objectif est d'offrir et de vendre un espace dont le cas, je ne fais que citer la fameuse plaquette, hein, mais dont le cadre de vie est exceptionnel, un espace au sein duquel sont maintenus 40 hectares d'espaces verts, 40 hectares dont une bonne partie correspondent à des parcelles agricoles, pour l'heure et aujourd'hui encore cultivées. Il faut enfin nourrir la ville. À titre d'illustration, citons que fin 2009, la communauté urbaine, hein, Lille Métropole Communauté Urbaine, et le groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais ont signé une convention dont l'objectif est le développement de l'agriculture biologique. Développement qui doit se faire en priorité sur le site des Champs Captans, au sud de l'agglomération. Développement également soutenu par un objectif qui est celui d'approvisionner les cantines scolaires de la ville de Lille à hauteur de 50% en produits issus de l'agriculture biologique. Cet objectif n'est pour l'instant bien évidemment pas atteint. Logique, on va dire alimentaire, dont relève également, en plus de leur fonction sociale, l'engouement actuel pour les jardins, jardins partagés, jardins ouvriers ou jardins d'insertion. Alors, je vous renvoie à ce sujet plus particulièrement, faute de temps, mais aux travaux de Xavier Guillaumard, hein, et notamment à ses publications dans Innovation agronomique en 2009, le volume 5. Si on veut faire une rapide synthèse, nos deux catégories d'enjeux, enjeux agricoles d'une part, enjeux urbains d'autre part, effectivement convergent, les uns servant objectivement les autres. Aujourd'hui en France, existe toute une série de procédures, on va dire sectorielles, territoriales, PNR, parc périurbain, programme agri-urbain par ailleurs, procédures territoriales, je dirais, qui consacrent, autorisent la formulation de ce qu'on peut appeler un système agri-urbain. Néanmoins, et au-delà des principes généraux, malgré, on va dire, cette convergence objective d'intérêts, les modalités de mise en œuvre des partenariats implique un certain nombre de conditions. Et parmi celles-ci, je n'en citerai que deux, nous pourrions en développer beaucoup plus, mais un, il faut que les agriculteurs des campagnes urbaines concernées acceptent les fonctions nouvelles qui leur sont assignées. Deux, il faut que les aménageurs reconnaissent l'agriculture en tant qu'activité, on va dire, à part entière de l'espace urbain et activité dont il convient de préserver, au même titre que toutes les autres activités agricoles, l'outil de production, à savoir le foncier. Alors, le rapprochement des sphères agricoles et des sphères citadines, dans un premier temps, du moins, ne relève pas, on va dire, de ce que certains vont appeler une véritable dynamique de co-construction. Dans l'exemple développé, donc celui de Lille, nous sommes plutôt en présence d'un processus concomitant, mais distinct, de mise en convergence des représentations de l'espace et des intérêts. Autrement dit, dans un même temps, agriculteurs d'une part, aménageurs et décideurs d'autre part, ont évolué dans leur pratique, dans leur représentation, pour finalement converger vers un point d'accord. Mais ce sont là deux dynamiques, on ne va pas dire parallèles puisqu'elles sont convergentes, mais deux dynamiques bien distinctes et séparées les unes des autres. Alors, c'est par la présentation, justement, de ces processus et de ce cheminement que je désire ouvrir le deuxième temps de mon exposé. J'aimerais commencer par une rapide mise en perspective. Et j'aimerais souligner, tout d'abord, que les premières idées ou les premiers projets à l'échelle de l'agglomération lilloise, dont l'objectif était l'intégration ou le développement des espaces naturels dans la ville. Ces premiers projets donc se sont positionnés tout d'abord aux dépens, parfois contre l'activité agricole ou les espaces agricoles. Alors, deux exemples. Celui tout d'abord du schéma directeur de 1973. Alors, ce schéma directeur de 1973 envisageait un premier parc de la Deule, dont on reparlera par la suite, mais en gros il s'agissait d'une très grande, très vaste zone de loisirs située au sud de la conurbation qui devait s'étirer tout de même sur 16 km, qui devait rassembler quelques 1740 hectares, dont 500 hectares de plans d'eau. Et ce premier projet donc d'un parc de la Deule prévoyait l'expropriation des agriculteurs sur 1200 hectares. Deuxième exemple, plus radical encore, je dirais, c'est celui des propositions faites par Bruno Bonduel, grande figure, bien évidemment, patronal lillois, dans sa lettre aux 86 maires de Lille, publiée donc en 1992. Alors, dans cet ouvrage, Bruno Bonduel reprend le thème de la ville à la manière du Nord, et effectivement, il espère cette métropole, cette grande métropole européenne, qui s'insérerait donc dans une Europe du Nord. Pour lui, néanmoins, la vraie ville du Nord, et on reprend le thème, est à la campagne, et cette campagne, il faut l'introduire. Il nous fait dans cet ouvrage, néanmoins, une description de l'espace agricole des périphéries lilloises du début des années 90, cataclysmique, puisqu'il nous décrit un espace mité, morcelé, défiguré, et il propose donc l'expropriation des agriculteurs, alors en offrant, hein, deux fois d'ailleurs, l'indemnité couramment pratiquée. Et l'expo, il propose l'expropriation sur 25 000 hectares. Sur ces 25 000 hectares, quelques 10 000 hectares auraient été consacrés aux maisons individuelles et à leurs jardins, et 10 000 autres gros hectares consacrés à la forêt. Alors, l'approche, évidemment, peut paraître quelque peu grossière, mais elle est celle d'un homme influent à l'échelle de la métropole, ce qui signifie bien qu'au début des années 90, l'intégration des espaces naturels était unanimement, dans la réintégration, la réintroduction des espaces naturels dans le projet de territoire, je dirais, pouvait être unanimement envisagée. Celle de l'activité et des espaces agricoles, elle ne relevait aucunement, par contre, de l'évidence. La reconnaissance de l'agriculture, la reconnaissance urbaine de l'agriculture s'est opérée tout au long des 13 années qui ont été nécessaires à la révision du schéma directeur, autrement dit entre 1989 et 2002. Alors, à la prise de conscience, je dirais, à cette prise de conscience concourt plusieurs éléments, celui bien sûr de la montée des notions de développement durable, de bonne gouvernance, de gestion participative, etc. Concourt également la fermeté de la Chambre d'agriculture qui a joué ici un rôle clé via les conflits notamment qu'elle a engagés avec l'agence d'urbanisme. Je vais résumer. Parce que les rebondissements sont nombreux. Mais en gros, entre 1994 et 2002, deux face-à-face majeurs opposent la Chambre d'agriculture et l'Agence d'urbanisme. Alors, les différends portent, classiquement, je dirais, sur l'ampleur des surfaces agricoles vouées à l'urbanisation, sur la localisation également et la dimension des zones d'activité projetées. Dans un objectif de conciliation, néanmoins, parce que il fallait tout de même le faire aboutir, ce schéma directeur, l'agence d'urbanisme a tout d'abord proposé l'adoption d'un principe de progressivité. Alors, concrètement, les zones d'extension urbaine, qui étaient jusqu'alors consacrées à l'activité agricole, doivent rester réservées à l'usage agricole sur une durée d'au moins 10 ans et à hauteur de 30%. Agence d'urbanisme qui consent également à la création d'une commission agricole qui regroupe, on va dire, acteurs et experts. Commission agricole qui a réalisé une série d'entretiens auprès des élus locaux afin de connaître leurs attentes vis-à-vis de l'agriculture de proximité, commission agricole qui a opéré également un certain nombre de sondages d'opinion à propos de l'agriculture périurbaine, à propos des paysages, commission qui a par ailleurs organisé des visites d'exploitation. Enfin, en septembre 2002, est organisé donc à l'hôtel de la communauté urbaine, un séminaire intitulé Le développement de la métropole lilloise et de son agriculture, quel partenariat? Alors, à l'occasion de ce séminaire, sont invités, bien évidemment, sont présents les élus, sont invités les agriculteurs, les membres du bureau de la Chambre d'agriculture et les représentants du réseau Terres en Ville. Alors, Pierre Mauroy ouvre la séance en invitant à créer les conditions d'un partenariat entre la cité et le monde agricole. Il reconnaît dans un même temps publiquement l'agriculture en tant qu'activité économique à part entière de l'espace de la ville et comme activité économique dont les exigences foncières sont légitimes. Il reconnaît également l'agriculture en tant que producteur de biens publics. L'offre de partenariat émise par Pierre Mauroy avait visé plusieurs objectifs. Il fallait tout d'abord rassurer les agriculteurs sur les intentions de la communauté urbaine. Les échéances pour l'adoption et l'approbation du schéma directeur devenaient une urgence, une priorité, et il fallait absolument faciliter l'approbation du document d'urbanisme. Alors, cette offre était motivée également par la réactivation d'un projet, Parc de la Deule, projet, on le verra, de nature néanmoins différente. Et enfin, la proposition de Pierre Mauroy a été très largement justifiée par le déploiement, parallèlement, de systèmes de production agricole, tout particulièrement en façade est de l'agglomération, et pour citer Fleury, on va dire à l'image citadine plus positive. Je ne développerai que ce seul exemple de la périphérie sud-est. J'ai travaillé tout particulièrement donc sur une quinzaine de communes situées donc en Pévèle-Mélantois, depuis donc, le contact direct avec l'agglomération jusqu'à la frontière belge et plus loin jusqu'à on va dire une deuxième couronne périurbaine. Si on travaille, si on raisonne à l'échelle de cette quinzaine de communes, bien. On notera, mais si on se réfère notamment au graphique, que à peu près les deux tiers des agriculteurs de cet espace tirent profit aujourd'hui de la proximité urbaine. Alors, 16% ici, le groupe 2, par de simples trajectoires ou stratégies, on va dire, de spécialisation. Autrement dit, nous avons là des exploitants agricoles qui vont chercher à valoriser les infrastructures urbaines de mise sur le marché. Bon, l'exemple le plus commun étant celui des endiviers qui valorisent l'infrastructure coopérative agricole de Falampin. Plus intéressant, c'est le fait que 50% des exploitations agricoles de cette périphérie sud-est se sont engagés dans des stratégies de diversification par les services, vente directe, mais aussi accueil, avec là une très grande diversité dans l'offre de services. Depuis le point de vente direct traditionnel, prolongement des productions agricole, déjà en place, jusqu'aux exploitations agricoles qui ont totalement redéfini leur système de production en fonction des demandes des citadins et donc des exploitations agricoles qui ne produisent que pour alimenter le magasin de vente au détail. Autre stratégie, les deux peuvent d'ailleurs parfois se cumuler, également qui sont celles de l'accueil, avec le développement des centres équestres, également des pensions pour chiens, chenilles autrement dit, mais également élevage, canins et ainsi de suite. On notera aussi une diversification importante dans la nature des productions agricoles, puisque quelques-uns se sont engagés vers la production de la fraise hydroponique en particulier, d'autres aussi vers la production de foie gras, destinée bien évidemment à la clientèle lilloise. On pourrait citer entre autres sous-producteurs de foie gras, initialement installé à proximité de Saint-Amand-les-Eaux, qui a constaté que l'essentiel de sa clientèle provenait de Lille, qui a donc racheté une ancienne pépinière à proximité immédiate de Villeneuve-d'Ascq pour y implanter son activité. Donc là, on a le cas d'une exploitation agricole qui s'est volontairement, dont l'implantation périurbaine a fait partie de la stratégie. Voilà. Alors, on a là une diversité et on va dire une territorialisation de l'agriculture qui contribue directement à l'attention que les institutions urbaines ou que les aménageurs ou décideurs vont porter aux revendications ou demandes agricoles, notamment en matière foncière. Alors, cette agriculture dite de proximité est effectivement considérée par les aménageurs comme apte à produire une offre spécifique et donc une valeur ajoutée au territoire de la ville. Donc effectivement, aucune autre entreprise, autre qu'agricole, ne sera en capacité d'ouvrir une cueillette à la ferme. Alors, selon une perspective inversée, celle des chefs d'exploitation, celle de ces chefs d'exploitation qui se sont engagés dans ces stratégies de diversification et d'ouverture à l'espace de la ville, l'agriculture se nourrit bel et bien de la ville et doit donc accepter comme charge, finalement, les contraintes liées à la proximité urbaine et liées à la satisfaction également des demandes urbaines. Alors, on peut penser en particulier à l'ouverture des espaces agricoles au public. On peut penser également aux efforts en termes de qualité paysagère ou en termes d'itinéraires techniques. Pour ces agriculteurs-là également, la communauté urbaine est un partenaire ou est un décideur légitime et quasi naturel. Alors, c'est là le point de convergence, pour la promotion d'une campagne considérée par les uns aujourd'hui et par les autres, donc tant par les citadins ou les décideurs urbains que par les agriculteurs, donc une campagne qui est certes cadre paysager, mais qui est aussi conçue comme espace de production d'une activité agricole qui intègre néanmoins à ses stratégies de développement, hein, l'ouverture, la publicisation de son espace. Par cette mise en convergence, effectivement, un certain nombre de politiques partenariales et un certain nombre de programmes sont aujourd'hui proposés aux exploitations agricoles de la périphérie urbaine de l'île. C'est surtout depuis 2003-2004 que l'agriculture lilloise est appelée justement à partager la gestion des espaces naturels métropolitains. La mise en œuvre ou la formulation des objectifs du schéma directeur vert de l'arrondissement est assurée, je l'ai cité tout à l'heure, mais par l'espace naturel Lille-Métropole, c'est-à-dire un syndicat mixte qui implique la communauté urbaine, les conseils général et régional et une quarantaine de communes de l'arrondissement. Ces 40 communes constituent 4 espaces d'intervention du syndicat mixte, dit parc périurbain. Donc ici représenté en hachure verte le parc de la Deule, premier parc inauguré. En bleu, le parc du Val-de-Marc. Au-delà, Val-de-Lys et Canal de Roubaix, marc urbaine. Donc par parc périurbain, on entend espace d'intervention de l'espace naturel Lille-Métropole. Alors, au sein de ces parcs, néanmoins, on distingue un certain nombre de sites dédiés, c'est-à-dire mis en gestion directe ou directement gérés par l'espace naturel Lille-Métropole. L'exemple des Périsots. Les Périsots, c'est à peu près 200 hectares, totalement enclavés dans la banlieue sud de l'agglomération lilloise, 200 hectares d'ailleurs consacrés exclusivement à la grande culture ou à la céréaliculture, mais aujourd'hui parcourus par un certain nombre d'itinéraires pédestres ou autres. C'est donc les programmes, hein, aujourd'hui proposés aux exploitants agricoles concernent ces sites en gestion directe, mais ce sont des programmes qui s'appliquent également à l'échelle du périmètre des 40 communes. La politique partenariale a été inaugurée en 2004, alors que Lille était capitale européenne de la culture. Donc, inauguration via une vaste opération du type Land Art, hein, qui devait permettre, consacrer l'ouverture ou permettre l'inauguration du parc de la Deule. Alors, de juin à septembre 2004, hein, 40 hectares, hein, au moins sur 4 sites, 40 hectares tout de même, hein, ont été consacrés, alors, entre guillemets, hein, à l'horticulture, aux métamorphoses environnementales ou aux folies agricoles. Voilà. On peut illustrer l'ensemble des réalisations. J'en ai choisi une. C'est cette spirale fleurie, hein, qui ici enjambe le canal de Seclin. Bon, c'est une spirale qui couvrait tout de même 11 hectares. Alors, il est intéressant de noter que les agriculteurs, via toute une contractualisation, hein, via un système de contrat, ont directement participé à l'opération. Donc, ils y ont directement participé par la mise à disposition de parcelles agricoles. Ils ont pu directement participer également par la mise à disposition du matériel, mais par leur intervention directe dans la réalisation des visuels. Des agriculteurs qui, par ailleurs, ont contribué à l'animation, et notamment à l'animation d'une classique fête des moissons. Alors, au-delà de ce type, on va dire, d'événements, la collaboration s'opère à l'échelle donc de ces parcs périurbains dans le cadre de deux programmes. Un programme, tout d'abord, d'aménagement paysager, qui, lui, donc, peut consister en une série de plantations, création d'un réseau de haies, également la réalisation de fossés végétalisés. Alors, ce programme aménagement paysager concerne les abords, hein, des sièges d'exploitation agricole, et il doit motiver les exploitants agricoles pour, je dirais, en raison d'une double perspective, celle de l'amélioration de l'image de marque de l'agriculture, perspective également de protection des cultures vis-à-vis d'un public de plus en plus nombreux dans ces campagnes urbaines. Des agriculteurs ont vu là aussi l'opportunité, bien évidemment, de valoriser l'abord des points de vente directs. Bon, sur les modalités pratiques, je vais passer pour l'essentiel, mais sachez par exemple que le syndicat mixte intervient tout de même à hauteur de 80% du coût matériel de l'aménagement réalisé. Deuxième programme, celui que l'on va appeler circuit de ferme. Alors, le circuit de ferme correspond à une démarche de promotion collective. Autrement dit, la communauté urbaine a pour objectif de soutenir, de dynamiser et de porter vers le haut cette agriculture de proximité et cette agriculture de service. Donc, elle propose ainsi aux exploitants agricoles d'intégrer un autre réseau ou un réseau supplémentaire, ce fameux circuit de ferme. Alors, les conditions pour intégrer ce réseau sont celles simplement de l'adhésion à un signe qualité, quel que soit ce signe qualité. Il n'y a pas de marque spécifique au parc périurbain. Puis les exploitations agricoles donc sont reportées sur ces dépliants, hein, celui placé en bas, localisé, photographié à la pluie, et localisé bien évidemment sur les chemins de randonnées qui parcourent ces parcs périurbains. Bon, ce sont ainsi plusieurs milliers hein, des clients qui ont été distribués via notamment les offices du tourisme. Il faut noter que la communauté urbaine, enfin, le syndicat mixte, a volontairement mis en œuvre des outils, on va dire, simples. Des outils simples pour l'amélioration de la qualité paysagère, pour la promotion des trajectoires de diversification. Alors, des outils qui ont un double objectif, celui bien sûr de pérenniser les exploitations en place, mais bien évidemment, et dans un deuxième temps, de faire, on va dire, des émules, y compris dans, au sein ou auprès des exploitants agricoles qui, a priori, seraient les moins enclins à travailler avec la ville. Avec, évidemment, pour perspective, celle de faire évoluer les systèmes agricoles hein, vers une plus grande, on va dire, durabilité, tout au moins en matière environnementale. Bon, mais à Lille aussi, je dirais, les attentes en matière de gestion participative sont dans une large mesure déçues. Alors, déçues parce que le montage, ce montage, ville-agriculture, connaît un certain nombre de limites. La première des limites porte, je dirais, sur l'engagement, la réalité de l'engagement des agriculteurs aux côtés de la ville dans le cadre de la contractualisation. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. À propos du parc de la Deule, tout d'abord. Initialement, 10 agriculteurs étaient impliqués dans la première session programme d'intégration paysagère. Sur les 10, seuls 5 projets ont abouti. Dans le cadre des circuits de fermes, seulement 7 fermes du parc de la Deule sont impliquées, sur tout de même 52 exploitations agricoles. En Val-de-Marque, ce sont seulement 4 exploitations agricoles qui participent. Alors, pourquoi et comment ? Tout simplement parce que les agriculteurs, et là je parle notamment des agriculteurs du Val-de-Marque, considèrent très largement qu'il ne leur est pas nécessaire d'intégrer, de s'insérer dans un réseau supplémentaire. Les clientèles sont établies, les magasins ou les points de vente directs, je dirais, fonctionnent bien. Le réseau implique peu de contraintes, mais tout de même, des réunions supplémentaires ou des conditions d'agrément qui, quoi qu'il en soit, restent vécues comme une mise en dépendance de l'agriculture vis-à-vis de la ville. Autrement dit, on a des agriculteurs dont les systèmes de production, les systèmes de revenus intègrent déjà pleinement le territoire de la ville, mais qui restent, quoi qu'il en soit, peu désireux de rendre des comptes. Alors, deuxième limite, c'est, je dirais, celle relative au maintien de communautés de communes au sein, indépendantes de la communauté urbaine, au sein de cet arrondissement de Lille. Donc là, je pense plus particulièrement à cette communauté de communes hein, au sud-est, dans le sud-est de l'arrondissement, qui est la communauté de communes de Pével, maintenue essentiellement hein, pour des craintes identitaires. Bon, les maires considèrent que les décisions seraient, bon, on connaît le discours, mais seraient trop éloignées de la population, etc. Alors, c'est sauf que le maintien de cette communauté de communes exclut des programmes développés par le syndicat mixte les exploitations agricoles les plus éloignées de l'agglomération. Celles donc qui, quelque part, sont véritablement en recherche de solutions pour faire venir à elles les consommateurs. C'est d'ailleurs dans cette deuxième couronne où on va rencontrer l'essentiel des exploitations qui envisagent l'adhésion à Campus Vert qui ont des chambres ou gîtes labellisés. Donc on a là les exploitations qui finalement auraient été les plus intéressées par le développement de ce programme circuit de ferme. Alors, nous rejoint par là, mais c'est sans doute un autre débat, hein, la question de l'échelle des documents de planification et des EPC. Autre limite, je l'ai appelée des dynamiques, je l'ai nommée des dynamiques de décrochage, mais bon, simplement pour mentionner le fait qu'au sein d'un espace tel que cette périphérie sud-est de l'île, très engagée hein, dans des trajectoires, des stratégies de diversification, eh bien, il existe un décalage certain entre les demandes citadines, les aspirations urbaines et la réalité de l'agriculture. Ah, un seul exemple suffira, celui de l'endive, produit emblématique du Nord s'il en est, produit emblématique du Pével Mélantois, puisque c'est par le Pével Mélantois que l'endive est entrée en France, sauf que nous sommes là en présence d'une production hydroponique essentiellement, totalement désaisonnalisée, totalement standardisée. La culture même des racines d'ailleurs est délocalisée, bien souvent jusqu'à la Picardie, et nous n'avons plus en Pével-Mélantois que le forçage des racines, donc en solution hydroponique. Donc nous sommes très loin d'une endive de terroir, et nous sommes très loin d'une endive susceptible de répondre aux demandes ou aux aspirations des citadins lillois. Alors, à l'opposé, je dirais, de cette stratégie, hein, de cette trajectoire des endiviers, existent également des exploitants agricoles qui ont développé des stratégies, cette fois-ci, de conversion, ou du moins de substitution vers les activités de service. Autrement dit, il existe un certain nombre d'exploitations agricoles pour lesquelles l'activité de production agricole au sens strict du terme, devient secondaire ou a pour seule utilité de maintenir l'exploitant dans un statut d'exploitant agricole. Donc nous avons de ce type un certain nombre de conversions bien vers des pensions canines, vers des centres équestres, conversion aussi parfois depuis des magasins de vente directe en fruits et légumes, hein, tant l'agriculteur en question s'approvisionne de plus en plus sur le marché d'intérêt national. Alors, cela pose un problème parce que les exploitants en question ne cèdent pas leurs terres, mais ont plutôt tendance à les louer à l'année, tant le revenu est important, et les louer à l'année à des exploitants agricoles qui se considèrent ruraux, mais c'est en raison d'un contexte national différent, qui les sous-louent à l'année, notamment aux exploitants agricoles belges, qui eux ont développé alors là des stratégies agricoles radicalement différentes, puisqu'ils ont investi essentiellement sur la production de pommes de terre, de betteraves et éventuellement de légumes pour la surgélation. Donc ces exploitants agricoles belges viennent dans une seule perspective, hein, celle de produire un maximum en termes de volume. Ils louent la terre une année, hein, mais n'entrent pas du tout, il n'y a pas de reprise avec bail. Autrement dit, ils n'assurent pas l'assolement. Et nous sommes là en présence d'exploitants agricoles belges qui, pour lesquels les programmes développés par le syndicat mixte ne présentent bien évidemment aucun sens et ne présentent aucun intérêt. Sauf que si on se reporte à cette carte, hein, les terres ainsi louées à l'année peuvent représenter des proportions très importantes de la SAU, jusqu'à 40, parfois 50% des SAU communales pour les communes les plus proches de la frontière. Autre interrogation, et j'en terminerai par celle-ci, le marché de la vente directe suscite aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des professionnels de la distribution. Alors, c'est le cas, et je dirais qu'un certain nombre, je n'ai pas pour l'instant les réponses, je m'y pencherai, je m'y consacrerai, mais en tout cas, un certain nombre d'interrogations portent sur les dynamiques, pas nécessairement négatives, qui seront impulsées, je dirais, par cette captation du marché de la vente directe. Alors, l'exemple sur l'agglomération lilloise, c'est bien sûr celui de l'ex-ferme du Sarr, aujourd'hui, trois petits points du Sarr, autrement dit, ce n'est plus la ferme du Sarr, enfin, bon. Ou ex-ferme d'Avelin, devenue Otera d'Avelin. Alors, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou n'en auraient encore jamais entendu parler, ce sont là de véritables supermarchés de la vente directe ou du semi-direct, puisque nous avons là des supermarchés qui s'approvisionnent auprès des, alors, des agriculteurs locaux, et tout dépend ce qu'on entend par local, hein, Cambrai, pour ses magasins, c'est du local. C'est régional, tout au moins. Le débat est posé. Bon, en tout cas, des magasins dans lesquels les consommateurs ont la possibilité de connaître, par l'étiquetage, la provenance du produit et éventuellement l'itinéraire technique suivi par l'agriculteur. Donc, ils connaissent le nom, l'adresse, les coordonnées de l'exploitant agricole qui, ici, livre sa viande, ses légumes ou autre. Alors, ce sont des magasins aujourd'hui qui, enfin, le système commence à essaimer. Le créateur de l'entreprise n'est pas annulier, c'est-à-dire ne fait pas partie du groupement Auchan au sens strict du terme. C'est néanmoins celui, l'ancien directeur de Decathlon États-Unis. Pardon ? Oui. Donc, c'est un système extrêmement bien pensé, hein, puisque il y a toute une mise en scène intérieure, un fond sonore avec les oiseaux, etc. Extérieur, qui effectivement plaît. Alors, à une clientèle, reste à savoir si c'est effectivement la même clientèle que les points de vente, on va dire plus traditionnels. Bon, avec toute la création, hein, dans l'environnement ludique, là, un immense... Donc, j'ai choisi cette photographie, hein, parce que donc ce fameux labyrinthe végétal... Alors, sur la localisation de l'entreprise, nous sommes là, dans le nord de Villeneuve-d'Ascq. Hein, ici, juste là, à ce niveau-là, passe l'autoroute qui file ensuite en direction de Roubaix, de Gand et de la Belgique. Donc, nous sommes en pleine agglomération. Il y a là 3 hectares, me semble-t-il. 3 hectares, par ailleurs, mis à disposition, donc, gracieusement, auprès d'un maraîcher, qui bien évidemment écoule ses quelques productions via le magasin. Mais c'est très intéressant, parce que lorsque vous arrivez sur le parking, un panneau, sans doute bientôt lumineux, indique, par son prénom, que le maraîcher se situe dans la parcelle numéro tant et qu'il fait tel travail. Donc, on a véritablement une théâtralisation, une mise en scène importante. Alors, à noter que ces magasins ont été contraints par la Chambre d'agriculture, par la Confédération paysanne également, à changer de nom. Ils étaient auparavant nommés « Ferme du Sarr ». Donc là, cette photographie est une photographie extraite, hein, du site de la Voie du Nord. Ce ne sont pas les artisans du bâtiment qui mettent en place l'enseigne, ce sont les agriculteurs de la Confédération paysanne qui déboulonnent l'enseigne pour supprimer ferme du, simplement. Même chose pour le premier des magasins, hein. Donc là, on est au sud de l'agglomération. Là, c'est dans l'est de l'agglomération. Donc, de A, la ferme, qui était en immense, Dussart en petit, ne subsiste plus pour l'instant que Dussart. Bon, avec une certaine logique, hein, dans le fait que ne reste que Dussart, puisque officiellement l'entreprise a été rebaptisée Oterra, mais tant qu'il n'est pas inscrit, que Oterra n'est pas inscrit, cela reste pour la totalité des clients la ferme Dussart. C'est ainsi depuis 2 mois. Alors, en conclusion, rapidement parce que le temps presse, j'aimerais simplement souligner que le système agri-urbain, ses partenariats, sa campagne urbaine, la mise à contribution de l'agriculture dans la production de territoire est bel et bien une réalité. Bon, on a une agriculture qui est effectivement, hein, un outil, on va dire, au service d'une ville plus durable, parce qu'elle permet de contenir, parce qu'elle permet de structurer, d'aérer, de nourrir, et aussi, on l'a vu, pourquoi pas, de promouvoir la ville. On a un système aussi qui a le mérite d'être un levier pour faire évoluer une certaine agriculture vers des pratiques, on va dire, plus respectueuses en matière d'environnement ou en matière paysagère. Alors, il n'empêche que les concrétisations sont décevantes et en tout cas que les concrétisations sont inachevées. Autrement dit, un tel projet implique des efforts permanent de sensibilisation, de relance, de formation, je dirais sensibilisation, relance, formation des agriculteurs, c'est sûr, mais aussi, bien évidemment, des aménageurs ou des décideurs. Alors, je terminerai tout de même en indiquant que fin 2010, a été nommé un conseiller communautaire délégué au monde agricole et à l'espace rural, et qu'a été constitué un comité partenarial Lille Métropole Chambre d'Agriculture. Alors, c'est là une instance je veux dire, de propositions, de stratégies ou des actions à mener en faveur de l'agriculture commune. Je vous remercie.